À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le vendredi 24 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Le groupe de presse IPM veut trouver un partenaire pour BetFirst, sa filiale de Paris Sportif, voire même la vendre totalement. C'est le troisième opérateur de Paris Sportif en Belgique. Les droits de succession ont été revus à Bruxelles. Ils accordent plus de facilité aux cohabitants de fait et pour les personnes plus éloignées du défunt. Même si les prix du gaz et de l'électricité diminuent, les distributeurs ne proposent toujours pas de contrat fixe. Nous verrons pourquoi dans un instant. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief.
Le Brief, c'est info, dès 7h.
Le sport est entré dans une ère nouvelle, l'ère de la rapide.
C'est pour ça que je joue avec BetFirst.
Les dés sont jetés, l'entreprise de Paris Sportif BetFirst est à vendre. C'est le groupe de médias IPM, qui édite La Libre, la DH, L'Avenir et l'N24, qui avait fondé l'opérateur de Paris Sportif en 2010. Aujourd'hui, il examine les options pour s'en débarrasser. Plusieurs pistes sont sur la table. On parle d'une ouverture du capital à un acteur plus important, voire même d'une cession pure et simple. BetFirst, aujourd'hui, c'est tout de même le troisième opérateur de paris sportifs en ligne, avec 16 000 paris par mois, placés par plus de 25 000 joueurs actifs. Ça génère plus de 50 millions de revenus par an et une croissance annuelle à deux chiffres. Reste à savoir qui sera prêt à miser sur l'avenir de BetFirst. Peut-être pour en faire le leader du pari sportif au sein du plat pays, mais au moment aussi où la publicité pour les jeux et paris en ligne est en discussion en Belgique. RTL fait son comeback sur le sol belge. La chaîne émettait sous licence luxembourgeoise depuis 18 ans déjà, ce qui ne manquait pas d'ailleurs de créer des tensions régulières avec le CSA, l'organe de contrôle des médias audiovisuels en Belgique. La réglementation luxembourgeoise est généralement moins contraignante que celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment en matière de publicité. Résultat, RTL a reçu de nombreuses amendes qu'elle n'a jamais payées. Désormais, la chaîne devra donc se conformer aux règles francophones belges. Ce retour au bercail était attendu après son rachat il y a 2 ans par les groupes belges Rossel et DPG. Mais ce n'est pas la seule raison, comme nous l'explique Jean-François Sacré, responsable du service Entreprendre de l'Écho.
Il y a une deuxième raison, c'est une raison tout à fait législative. La législation a évolué, la législation européenne sur les médias a évolué. En résumé, elle oblige les opérateurs de télévision qui visent un marché extérieur au leur à investir dans la production locale. En raison de ça, RTL n'a plus vraiment de raison d'être extérieur à la Belgique. Elle devait investir dans la production locale.
Et quelles conséquences cela aura-t-il sur la chaîne et ses téléspectateurs?
Ils auront des contraintes d'investissement, de respect de la législation sur la publicité, mais en même temps, ils auront des opportunités. Ils vont par exemple pouvoir accéder au fameux fonds de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour développer des séries. Jusqu'ici, c'était l'apanage de la seule RTBF. Et bien maintenant, ils vont pouvoir puiser entre guillemets dans ce fonds, évidemment en remettant des dossiers, les argumentant, etc., pour pouvoir bénéficier de ce fonds et d'investir dans des productions locales, puisque RTL, sa grande plus-value, enfin, c'est du moins ce qu'elle affirme, c'est d'investir dans la production locale. Et donc pour le téléspectateur, peut-être qu'il verra dans les années à venir des séries estampillées RTL, coproduites par RTL.
Le gouvernement fédéral poursuit sa stratégie de développement de l'hydrogène. Il vient de débloquer une belle enveloppe de 30 millions d'euros pour soutenir 6 projets innovants en la matière. C'est de l'argent européen qui vient directement du plan de relance et il sera reversé aux entreprises sélectionnées sous forme de subsides. L'objectif à terme, c'est de faire de la Belgique une plaque tournante européenne des molécules vertes. Des projets aux quatre coins du pays, derrière ceux-ci se cachent des entreprises connues dans le secteur comme John Cockerill et son initiative de recherche dans les matériaux composant les électrolyseurs à membrane. Il y a aussi Bekaert, Life, Fluxys ou encore Luminus pour ne citer qu'elles. 30 millions C'est déjà pas mal, mais ce n'est en réalité qu'une petite partie des 387 millions d'euros qui devraient être investis dans le secteur de l'hydrogène belge d'ici 2026. Un second appel à projet national, doté de 20 millions, celui-là, sera d'ailleurs lancé avant l'été. Il y a du neuf pour les successions à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi un projet d'ordonnance qui modernise les droits de succession. Ils seront allégés pour les cohabitants de fait ainsi que pour toute personne non apparentée au défunt. Le ministre bruxellois en charge des finances, Sven Gatz, détaille les deux grandes adaptations.
Il y a deux éléments principaux, c'est l'assimilation sous certaines conditions des cohabitants de fait aux conjoints et cohabitants légaux. Ça veut dire que les personnes qui ont formé ensemble un ménage commun, en principe un an pour bénéficier des taux les plus bas et 3 ans pour bénéficier de l'exonération sur le logement familial, seront donc mis sur pied d'égalité avec les cohabitants légaux. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est l'instauration d'un taux réduit de 3%. Sur la première tranche de 15 000 euros pour toute la succession, selon les mêmes tarifs que, par exemple, frères et sœurs. Il y a seulement la condition que ces personnes doivent être spécifiquement désignées dans le testament du défunt.
Mais quels sont finalement les objectifs derrière ces changements?
Disons que la société évolue, donc on veut quand même avoir une approche avec ces droits de succession plus sociale et plus moderne, et en même temps, naturellement, c'est bien l'objectif. Si on fait une réforme, il faut plutôt diminuer, bien sûr, cette pression fiscale que l'augmenter. Ce sont les deux éléments. Disons.
Et ces adaptations devraient être en application dès le 1er janvier 2024, après avis du Conseil d'État. Le prix du gaz naturel poursuit sa baisse. En Europe, il est tombé sous la barre des 40 euros le mégawatt-heure en début de semaine. C'est le niveau le plus bas depuis juillet 2021, grâce notamment à une météo clémente et puis des niveaux de stock relativement élevés. Caroline Sury, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les finances personnelles à l'Écho. Alors, peut-on espérer un retour des contrats d'énergie fixes bientôt, alors que les contrats variables étaient devenus la norme ces derniers mois?
Alors, c'est ce qu'on pourrait légitimement penser, vu que ça fait des semaines et des semaines que les prix du gaz diminuent. Donc, on peut légitimement se dire, tiens, les fournisseurs vont remettre des contrats fixes. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Donc, à part Luminus qui avait relancé des contrats fixes en janvier, les autres fournisseurs restent très frileux pour le moment. Parce que pour eux, même si les prix baissent pour le moment sur les marchés et que c'est une tendance générale, ces prix sont encore trop volatiles. Et donc, c'est risqué pour un fournisseur de proposer de tels contrats sur le marché. Pourquoi c'est risqué? Parce que si les prix baissent encore légitimement, les consommateurs qui ont souscrit des contrats fixes aujourd'hui vont les casser demain en se disant « les prix ont baissé, je vais pas rester dans un contrat qui me coûte cher ». Et le problème, c'est que le fournisseur se retrouvera avec une énergie excédentaire qu'il devra vendre à perte. Bref, si on veut des contrats fixes, leur retour, il faudra attendre que les prix sur les marchés soient davantage stables.
Alors, pour diminuer les risques pour les fournisseurs, le régulateur fédéral, donc la CREG, recommande d'ailleurs de remettre en place une indemnité de rupture en cas de cession du contrat avant la fin de celui-ci. À Bruxelles, le cabinet d'avocats Boyle Legal est en plein déménagement. Jean-Pierre Boyle, c'est une sommité dans les droits des affaires et plus particulièrement dans les matières bancaires et financières. Il a pignon sur rue, enfin sur avenue Louise d'ailleurs, à quelques encablures du palais de justice de Bruxelles. Il s'apprête à fusionner toute son équipe avec le cabinet flamand Monard Law, qui est réparti dans 5 villes en Belgique. C'est donc une équipe francophone dédiée banque et finance qui rejoint une plus grosse structure néerlandophone. Quel est le sens de cette démarche? L'avocat Jean-Pierre Boyle nous a reçus dans son ancien cabinet au milieu des déménageurs.
Nous serons 130, donc on s'inscrit dans les 5 premiers cabinets indépendants belges avec un full service bilingue, culturellement, même trilingue. J'ai toujours pensé qu'il fallait rester au niveau national, au niveau fédéral et ne pas s'inscrire dans une structure internationale dont le centre décisionnel est ailleurs et dont le marché belge n'est plus un marché émergent. Nous voulions répondre aux besoins du marché, aux demandes de la clientèle, et aujourd'hui les demandes de la clientèle je pense, ne peuvent être couvertes que par une structure plus importante, à prix, à tarif comparable. Ça permet de délivrer de meilleurs services, d'avoir de meilleures technologies et d'avoir un meilleur savoir au bénéfice des clients. C'est un vrai changement culturel et un changement d'entreprise.
Depuis ce jeudi, la SNCB propose une nouvelle formule, c'est l'abonnement Flex destiné aux navetteurs. Pour répondre à la hausse du télétravail, il est désormais possible d'acheter via son smartphone un abonnement Flex qui couvre 10 jours de voyage par mois. À partir de la fin avril, les entreprises pourront proposer l'abonnement Flex à leurs travailleurs avec un régime de tiers payant. Ils auront alors le choix entre 80 ou 120 jours de voyage répartis sur une année. Il sera même possible de combiner la formule avec un autre abonnement ou un autre transporteur ou d'un parking, par exemple. Un petit mot encore avant de nous quitter. Brussels Airlines a un nouveau patron, une patronne même. C'est l'Allemande Dorothea von Buxberg qui succède à Peter Gerber à la tête de la compagnie aérienne belge. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Déjà, un très bon week-end. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à le faire savoir encore autour de vous. À bientôt.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.